Je vais vous faire écouter justement une petite pièce, enfin un extrait d'une pièce de Lionel Marchetti, qui est une pièce, qui est une commande pour la radio, pour la CR, qui a été éditée. Cette pièce a été éditée chez Optical Sound, le label de Pierre Béloin. Et c'est une pièce assez intéressante parce que c'est un travail exactement dans le sillage de ce que fait habituellement Lionel Marchetti. C'est-à-dire de mêler l'électroacoustique avec du temps réel et avec du documentaire. Et en l'occurrence, les prises de son ont été faites pendant toutes les vacances où il partait avec sa fille et où il retrouvait son cousin. Et cette pièce, en fait, pendant 5 ans, grosso modo, il a enregistré à toutes les vacances et a pris cette matière-là pour en faire une pièce qui dure 2 heures en tout. Et donc, je voulais vous faire écouter un extrait de cette pièce parce que il y a des dispositifs de techniques. Enfin, voilà, on l'écoute et puis peut-être on.
Merci. Quatrième cahier, la grotte.
Voilà. Je vais vous faire écouter ça parce que bah, je trouve que c'est vraiment ça, en tout cas, une des approches de la radio possible. Voilà, on est sur des questions hyper infraordinaires, quoi. On n'est pas sur une pensée qui se développe, on est sur la prise de son. Voilà. Bon, cette prise de son faite aux Shops avec une belle restitution et un joli paysage sonore. Qu'il a réussi à créer. Ce qui est phénoménal, c'est que voilà, juste à enregistrer, prendre cette matière-là, composer autour, c'est aussi ça, la radio. Il le fait d'une manière assez simple, marketing autour de ça. mais avec des procédés tout bêtes. Quand ils sont dans l'eau, voilà, filtrage dans l'aigu pour qu'on a l'impression d'avoir la tête. C'est très très mobile, ça marche très bien. C'est vraiment une manière de nous mettre presque en audition subjective. Ils nous placent dans la peau de ces gamins pendant un moment et je trouve que c'est assez réussi en tissant derrière une espèce de musique assez discrète qui crée une tension d'ailleurs pendant toute la pièce, souvent. Ce qui fait qu'il n'a pas construit un monde de l'enfance idyllique. On passe 2 heures avec que ces gamins. Hein. C'est 2 heures complètes où on suit leur tribulation en barque, dans une grotte, en train de nourrir les lapins, en train de découvrir une charogne dans un pré. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir toujours une espèce de petite scénette qui se dévoile, en fait, que le son dévoile petit à petit. Et en fait, c'est là que. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à la radio, de plus en plus, il y a de l'image, avec les caméras et les webcams qui sont dans les studios, mais je pense que c'est une très 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 mauvaise idée parce que il faut absolument conserver le fameux handicap de la radio devient pour ce média un atout finalement, c'est-à-dire que son côté la cécité de la radio, le fait qu'on se dise comme un média aveugle en fait est un atout pour lui parce que ça permet à l'imaginaire justement de se remplir uniquement avec le son. La différence avec le cinéma, c'est que l'imaginaire est un peu enfermé dans ce que l'image nous donne à voir. Et alors qu'avec le son, quand on n'a que le son, on libère cet imaginaire pour y mettre tous, chacun, les images qu'on veut, quoi. Et je trouve que c'est ça la grande, grande force du média radio, finalement, me semble. C'est Orson Welles, hein, qui ont posé la question tout le temps, lui qui avait commencé par la radio avant de faire Citizen Kane. On lui dit, qu'est-ce que vous préférez comme média, vous qui avez fait les deux, la radio ou le cinéma? Il dit, la radio, l'écran est bien plus grand. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension-là, de cet imaginaire que le son peut porter ou peut véhiculer qui fait toute la force de ce média, quoi. Enfin, je sais pas, ça vous est tous arrivé à un moment donné de ne plus pouvoir faire autre chose que d'écouter la radio parfois, d'arrêter la voiture sur le bas-côté, de se mettre entièrement à écouter. Donc voilà. Alors la radio aussi, c'est la spécificité du média. Nous, quand on est arrivé à la tête de l'atelier de création radiophonique, on voulait aussi réfléchir à jouer avec la spécificité même des ondes radio, quoi. En l'occurrence, je vais vous faire écouter quelque chose, tiens. Puis on peut en parler après.
Retour Saint-Pléyel à Paris pour la deuxième partie de ce concert donné ce soir en direct sur France Musique et chez nos amis d'Espagne, du Danemark et d'Allemagne dans le cadre de l'Union Européenne de Radio. Deuxième partie de ce concert de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, placé sous les actions de Yung Woon Chung. On va écouter tout de suite une pièce que Modeste Moussorski nous a proposée avec ses tableaux d'une exposition. Qui ne constituent pas une suite de pièces descriptives, mais qui sont en fait plutôt des tableaux, des évocations qui font appel à toutes les ressources du piano qui cultivent volontiers le contraste. Et à l'origine de cette œuvre de Moussorgski, la mort en 1873 de Victor Hartmann, peintre, architecte, ami des musiciens du groupe des cinq, dont faisait partie Moussorgski. Une exposition dans le dessin, de maquette, de l'esquisse, quelques mois plus tard, ce que la mémoire de l'artiste Victor Moussorgski saisira le texte pour composer rapidement, en juin à juillet 1874, ce cycle destiné d'abord au piano, et c'est Maurice Ravel qui s'appellera un peu moins de demi-siècle plus tard à l'orchestration de ces tableaux d'une exposition qui n'a pas la première audition de la Sierra Tropa de 1922 à Caracas. La direction de Serge Koussevitzky qui avait donné à Ravel l'idée d'entreprendre ces tableaux, ces tableaux de votre travail, ces tableaux qui sont liés par une promenade, tout d'abord, promenade, élevé qui au Castello, promenade.
D'où je te parle?
Promenade, balai des poussins dans leur coque,
c'est
le
Gottenberg
et Schmil, le marché de Limoges, catacombes, c'est le Romanum. Un mortuis in lingua mortua, la cabane sur des pattes de poule, et enfin la grande porte de Kiev. Ce sont ces tableaux d'une exposition de Modeste Moussorgski dans l'orchestration de Maurice Ravel que nous allons entendre à présent par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé ce soir par Myung Woon Chung, violon solo de l'orchestre, Svetline Rousseff. Lichke, qui est beaucoup parlé, beaucoup commenté, beaucoup écrit sur cette œuvre, a précisé que Moussorgski avait imaginé des tableaux qui correspondaient à ses fascinations et à ses archétypes, des scènes populaires, de l'univers des enfants, des fantasmagories, l'obsession aussi de la mort, l'attachement à la grandeur épique de l'ancienne Russie. C'est tout cela qui nourrit cette œuvre de.
Ok, pour le chef, entrée du chef.
Ça marche.
C'est deux avant la musique et trois avec la trompette à la musique.
Thank you.
Bon, on m'arrête là. Ça continue, évidemment. Alors, l'idée de la CR aussi, c'était quand on débutait une émission, on ne savait pas dans quoi on allait tomber. C'était la force de se dire qu'on allait se retrouver propulsé dans un univers et dans un monde sans non plus dire exactement qu'est-ce qui allait se passer, et donc de surprendre aussi un peu les auditeurs. Et c'est ce qu'on cherchait à faire avec cette pièce-là, qui s'appelle « Déconcertant ». Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que vous en percevez, vous, qui avez des oreilles, des grandes oreilles. Alors ça, c'est une pièce de Modeste Moussorski, la musique. Après, la création radio, c'est une pièce qu'on a faite, Franck Smith et moi-même. C'est une des dernières pièces qu'on ait produites, celle-là. C'est même la dernière émission qu'on ait passée. C'est pour ça qu'on l'appelait Déconcertant aussi, parce que c'était déconcertant que l'atelier s'arrête après, mais...
Ça m'a fait penser à une pièce que j'avais écoutée sur Arte Radio qui s'appelle Les oreilles ont des oreilles.
Oui.
Et qui est tu connais, qui est une pièce comme ça, une espèce de mise en abîme où on commence à écouter une femme qui finalement s'est à la gare et qu'on change d'espace et le changement d'espace est signé. Enfin, on est au courant grâce à la qualité du son et de l'espace, soit dans les reverbs, soit dans la qualité des micros qui changent. Et comme ça, on passe sur quelqu'un qui écoute en fait cette voix d'une bande magnétique, puis sur... Et ça m'a fait penser à ça, parce qu'il y a ces changements d'espace, et il y a aussi tous ces moments où on a l'impression que le son sort d'un transistor, puis d'un transistor de voiture, puis d'un... c'est quelqu'un qui parle avec un orchestre qui joue derrière, qui se sert d'un autre appareil qui...
Ouais.
Et j'ai pas j'ai voyagé dans des espaces, mais j'ai pas forcément compris l'ordre et la manière dont c'était articulé.
Ben, l'ordre, après, c'est la musique qui nous donne l'ordre. En fait, c'est une pièce qu'on a voulu, parce que c'est toujours quelque chose qui nous a fasciné, cette ubiquité de la radio, quoi. C'est-à-dire le fait d'être derrière un micro et de faire en sorte que finalement, d'un seul coup, comme par magie, notre voix, elle se retrouve multipliée par autant de postes dans lesquels elle sort, et on se met à exister, multiplié de soi-même, dans tous les endroits où nos postes... Et ça, c'est instantané, c'est en direct que ça se produit. Alors, ça marche pas sur Internet... Si aussi, mais il y a un léger décalage, mais remarque sur les ondes hertziennes aussi, il y a un léger décalage. Mais c'est dans l'instantané. Et donc on réfléchissait à ça et ça faisait longtemps qu'on cherchait l'occasion de pouvoir faire ce programme-là. Et puis la programmation de l'Orchestre Philharmonique nous en a donné l'occasion. Parce que ce concert, bon déjà on voulait une pièce qui soit très connue. On voulait une pièce qui musicalement puisse, pas un truc de musique contemporaine où on peut pas prévoir ce qui se passe dans la seconde d'après. On voulait quelque chose où les gens puissent se chanter la suite, connaissent la pièce. Donc les tableaux d'une exposition c'était parfait parce qu'on l'a tous chanté ou siffloté. Enfin on connaissait quand même une pièce du répertoire connu. Et la chance qu'on avait c'était que cette pièce était à la fois jouée en direct de la salle Pleyel et diffusée en direct sur France Musique. En même temps, Arte filmait le concert, et en même temps, il y avait une équipe qui était chargée de l'enregistrer pour faire un disque. Donc on avait déjà le dispositif de radio traditionnel de captation de l'orchestre, d'un orchestre, avec les micros un peu partout, par pupitre, etc. Mais sauf que comme là, c'est en plus, ils allaient faire un disque pour EMI, ou je sais plus quoi, ou Sony, du coup, il y avait vraiment un micro par musicien. Et donc on s'est dit, déjà c'est intéressant, si on appelle tous nos potes, tous, on leur distribue, on leur demande de tous mobiliser tous les appareils de prise de son qu'ils ont, ceux qui ont des appareils pourris comme des téléphones, ils utilisent ça, ceux qui ont la meilleure qualité, ils utilisent ce qu'ils ont, etc. Et ils enregistrent le concert au moment où ils passent à l'endroit où ils sont, eux. Donc on était, je sais pas, on était une trentaine à sillonner Paris ou à être dans différents endroits. Moi j'étais dans un taxi par exemple. Et donc la radio est sur France Musique et je capte le concert et je l'enregistre dans mon taxi. On avait un autre ami qui était lui avec un ghetto blaster dans les rues de Paris et qui écoutait le concert en même temps qu'il se baladait avec le concert. On en a un autre qui est dans les couloirs de Radio France, parce que les couloirs Radio France, c'est intéressant, il y a les radios, quand on est dans le couloir de la radio, la radio passe dans le couloir et également dans les ascenseurs. Donc pareil, lui il se met à sillonner. Donc en réalité, tout le monde est en temps réel. Et on s'est retrouvé, alors en plus avec, je sais pas, il y avait 80, 100 micros pour la captation, plus un camion dans la régie d'Arte, plus, alors on avait un micro au premier rang, un micro au premier balcon, un micro dans la cafétéria de Playel, on avait un micro dans la loge, on avait un micro dans la coulisse, on avait des micros tout là-haut dans les cintres. On avait disséminé des micros partout, quoi. Et on a enregistré ce concert avec autant de fois qu'on avait de micros. Et finalement, alors on a pu faire ça qu'à un seul endroit, on a pu faire ça qu'au studio 101, parce que c'est le seul endroit où il y avait une table de mixage suffisamment grande, une C100 là-bas qui nous permettait d'avoir suffisamment de pistes. Et en réalité, on s'est retrouvé avec 185 pistes de sons différentes de ce concert. Et donc elles sont toutes synchronisées, elles sont toutes en... Et après, le mixage n'est juste que finalement, ou quelque chose de cut, ou quelque chose de relativement fluide, pour passer d'un son à une autre en se servant des articulations de la musique ou des sons de la réalité qui, eux aussi, possèdent des transitoires et des éléments qui nous permettaient de basculer d'une prise de son à l'autre. Alors en plus, je crois qu'on récupère le streaming internet qui est hyper compressé, qui passe en direct sur France Musique. On a des gens qui nous laissaient des messages sur le répondeur en laissant des bouts de concert sur le répondeur. Et on a mélangé toutes ces qualités très très diverses et en n'ayant qu'un seul souci, la continuité temporelle de la pièce qui nous sert juste de balise.
C'est mixé en direct du coup. Enfin,
alors non, c'est pas mixé en direct, ça a été remixé. Il a fallu qu'on récupère toutes les prises de son.
Je veux dire, après c'est mixé en mix.
Ouais.
C'est pas du montage, c'est du mixage.
C'est du mixage, je dirais pas en une fois. D'ailleurs, on n'avait pas eu assez de temps parce que on n'avait qu'une seule journée pour mixer. C'était l'époque où les studios étaient surbondés à l'approche des vacances. Et donc, on a pu avoir le studio 101 parce que c'est quand même là où ils enregistrent tous les orchestres et toutes les formations musicales. On a pu l'avoir qu'une journée et donc, en fait, c'était trop court. Parce que ne serait-ce que pour rentrer les 185 pistes dans la machine et puis de les synchroniser, les caler, en fait, il ne restait plus beaucoup de temps pour faire le mixage. Et moi, j'aurais aimé... En fait, il aurait fallu une journée de plus pour mixer. Ça aurait été super. Mais on ne les avait pas. Donc, on a fait comme on a pu. On avait quand même la partition d'orchestre. On savait que là, on allait... Et puis, on voulait mettre aussi parce qu'il y avait, la régie Arte, mais il y avait la régie Radio France aussi. Mais là, le metteur en onde n'a pas voulu qu'on mette un micro dedans, quoi. C'est dommage, parce que j'en aurais bien aimé croiser tout. Donc, il y en a un, voilà, il se balade dans Paris, il demande son chemin. Il y en a un autre, il fait sa vaisselle. Il y en a un autre, ils sont en train de déménager. Donc, ils ont un truc super pourri avec le clignotant qui marche tout le temps et avec l'enceinte qui grésille. C'est dans un camion J7 très, très vieux. Mais en tout cas, intéressant de se dire, parce que le côté plastique de l'utilisation de la radio, finalement, il se niche aussi dans ses composantes techniques, dans la façon dont la radio fonctionne. Et là, justement, cette question du direct, de l'ubiquité, de la prise de son multiple, dans un seul moment, synchronisé, nous a permis de faire ce petit montage-là. Voilà, trouver...
Comme une pub pour les logiciels de convolution, genre Activer et Cyberpunk qui permettent de passer d'une ambiance extérieure et puis même des trucs de génération de rumble de ville, et on passe dans un tout petit baladeur, du coup, dans les passages et tout ça, c'est vrai que. Mais fait en vrai.
Oui, fait en vrai, oui. Mmh. Là, pour le coup, ça a été fait en vrai, oui. Mais donc voilà, ça c'est une des dernières aventures qui a été la nôtre.
Le dérochage a dû être marrant.
Ouais, le dérochage a été assez marrant, comme tu dis, ouais.
Est-ce que vous vous êtes arrêté quand? Vous
êtes en 2011, juin 2011. Ça a été là. L'équipe a été dissoute, en fait, et les moyens de l'atelier de création radiophonique, c'était à l'époque où Patrick Poivre d'Arvor, c'est Olivier Poivre d'Arvor, arrivé à la tête de France Culture, et lui avant avait dirigé Culture France, qui était anciennement l'AFA, qui était l'agence française pour la création artistique, et qui permettait de financer les déplacements des artistes à l'étranger. Et il est arrivé, il a voulu imprimer sa marque, il est resté un an, et au bout d'un an, en fait, il a voulu faire sa propre émission, et c'est là qu'il a fait Les Villes Mondes. Je ne sais pas si vous écoutez France Culture, donc le portrait d'une ville C'est pas très nouveau, mais enfin, c'est par contre une émission qui est très 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 chère, parce qu'envoyer toute une équipe avec traducteur, monteur à l'étranger, etc., à chaque fois billet d'avion, au moins une semaine sur place, avoir les traducteurs pendant le montage. Et cette émission, en fait, est devenue tellement, tellement chère qu'il a commencé à déshabiller ce qui existait. Et en fait, il a lorgné sur la CR avec nos moyens considérables. C'est-à-dire que nous, c'est vrai qu'on avait, pour chaque émission de chaque semaine, 120 heures de montage, 30 heures de prise de son et du mixage. Pendant 30 heures de mixage, 120 heures de montage et autant de temps qu'on veut en prise de son, quoi. Pour faire une pièce dont la durée, on ne demandait pas aux gens une durée précise, on leur demandait juste, parce que voilà, on trouvait que chaque pièce devait faire sa propre durée. C'était ridicule de dire faire une pièce de une heure chaque semaine. Il y a des artistes qui vont s'exprimer sur beaucoup plus court ou d'autres sur beaucoup plus long. Enfin voilà, la temporalité, on l'a laissé leur choix à eux, quoi. Mais du coup, l'émission la plus longue qu'on a mis à produire, on a mis 5 ans et demi, quoi. Donc là, c'est des centaines d'heures de studio, c'était pour un prix Italia, et là, c'est gigantesque, quoi. Donc, il a commencé à récupérer les moyens de l'atelier en se disant, bah, déjà, on n'a pas besoin qu'il y en ait deux qui dirigent, parce que Marina nous avait quittés assez tôt pour aller habiter à New York. Et donc, on n'était plus que deux, et donc il a récupéré nos salaires, et puis il a déshabillé les moyens qui allaient à la CR pour mettre sur la Ville Monde. Donc il a été déçu parce qu'il ne savait pas qu'on était si mal payé. Donc il n'a pas récupéré beaucoup d'argent. Par contre, il a récupéré pas mal de moyens en montage et mixage, quoi. Et donc du coup, aujourd'hui, l'atelier existe toujours. Mais il se trouve relégué dans la grille le troisième jeudi de chaque mois à 23h. Donc nous au moins on était visibles, c'était tous les mercredis, c'était tous les dimanches, pardon, c'était tous les dimanches à 10h30 jusqu'à minuit, et là maintenant c'est un peu disséminé, il n'y a plus d'équipe aussi, il y avait vraiment ce qui faisait la force aussi de l'atelier, c'était que c'était une équipe. Il y avait une équipe au niveau de la coordination, de la direction artistique, il y avait une équipe de techniciens et une équipe de chargés de réalisation qui était fixe. C'est-à-dire que pour le coup, on les avait à l'année, quoi. On prenait une équipe et on les gardait, on travaillait avec eux pendant un an. Il y en a qu'on a gardé pendant 3, 4, 5 ans, qui voulaient absolument rester. Puis en même temps, c'est un lieu de formation, donc prendre des jeunes aussi et les mettre à l'atelier, c'était aussi leur garantir de pouvoir faire un travail un peu de haute couture avec les sons, quoi. Voilà. Donc ça s'est arrêté là, dans des conditions un peu dommages. Et puis maintenant, bon, Irène qui dirige... Irène, c'est elle qui est responsable de la création à France Culture. Elle dirige aussi l'atelier, mais sauf que c'est une documentariste née. Elle n'a pas la fibre pour être, j'ai envie de dire, directrice artistique. C'est pas son credo du tout. Donc plus d'équipe, une direction artistique comme ça, qui est un peu... voilà, on propose à des gens de faire des choses, mais... Il y avait une vraie ligne éditoriale, quoi, avec une réflexion, avec des thématiques. On a travaillé sur la question du jeu, de l'autofiction, de l'autoportrait. Demander à des gens de travailler sur faire leur portrait à la radio. Et on a travaillé aussi sur des portraits de gens, sur des cartes postales sonores d'un lieu aussi. Comment on brosse un lieu radiophoniquement parlant. Donc là, voilà, après, il faut écouter les pièces historiques, hein, de Luc Ferrari, de Yann Parentoen. Pour voir de quelle manière c'est intéressant d'aller de l'infraordinaire et des choses les plus anecdotiques, et à partir de là, réussir à dresser la scène, quoi, et à la constituer par les éléments sonores qui sont montés, quoi. Donc voilà, ça je pourrais vous faire écouter d'autres, peut-être pour... Ah oui, pareil, ça c'est intéressant. Vous connaissez le travail de Joris Acoste ? Avec l'Encyclopédie de la Parole. Joris Lacoste a entrepris, il y a maintenant très longtemps, de se lancer dans cette... C'était au laboratoire d'Aubervilliers, avec plusieurs personnes qu'il avait réunies autour de lui, à essayer de décrypter la parole, la voix, la ponctuation, et de travailler pour ça à partir d'éléments enregistrés. Bref, Joris Lacoste a beaucoup travaillé sur le langage et sur la parole. Ça a donné lieu à au moins 3 ou 4 ACR. Un avec Pierre-Yves Massé sur la ponctuation, un autre avec comment elle s'appelle, Emmanuel Lafont, lorsqu'ils ont fait Parlement, où elle reprenait dans sa voix des tas d'archives anciennes. Mais elle les dit dans sa voix, et avec la prosodie, le son, et avec les effets de réverbération qui travaillaient en temps réel. C'était magnifique, ça. Ça, on l'avait fait en direct aussi. Et puis, on a fait une troisième avec Joris aussi. Et puis après, en marge de ça, il nous a proposé un projet qui s'appelle le Musée du Sommeil, et qui est une expérience... Alors, si je vous dévoile le truc, du coup, ça casse la surprise de comment ça marche. Alors, je préfère vous faire écouter un petit bout, puis vous poser peut-être la question de comment c'est fait, puis après, je vous dis comment est arrivé à ça. Mais c'est intéressant, là aussi, d'inclure du geste plastique dans la création radio, mais dans le dispositif, dans la manière dont ça fonctionne, au fond. Alors, le musée du silence. Le musée du sommeil, pardon. Musée du sommeil. On va le mettre au début de la pièce.
Enfin, quant aux rampes d'escalier. Voilà.
La fin du générique.
Je me rappelle de l'arrivée dans le musée. Je ne sais pas encore ce que j'y fais, pourquoi je suis là, même si c'est un musée. Je reconnais peut-être un musée. Enfin, c'est des grands bâtiments avec des énormes escaliers. Il y a surtout les rampes. Quoi. Je reconnais le musée, enfin, quant aux rampes d'escalier, qui sont des rampes dont la balustrade est très très large, sur lesquelles on peut s'asseoir au moins à deux côte à côte. C'est là où je reconnais un musée.
Alors c'est un musée plutôt vertical où on passe d'une pièce à l'autre au départ par une échelle, par des échelles comme ça un peu. Et alors ce qui est curieux, c'est que il y a un effet géométrique vraiment bizarre qui est une espèce de mélange de vertical et d'horizontal. On ne savait jamais vraiment où se trouvaient les niveaux. On savait toujours qu'il y avait des pièces. Ici, au-dessus, on voyait plus ou moins à travers, comme des mezzanines, ou comme s'il y avait du verre. Donc tout se superposait comme ça, et se distordait, ça tournait un peu comme si on était en apesanteur, quoi, et que les pièces pouvaient rouler sur elles-mêmes.
Des pièces, si tu veux, dans chaque pièce, tu peux aller dans une autre pièce, donc c'est un espèce d'objet sans fin. Je pense que je reste dans ce bâtiment jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il flambe, dans cette espèce de bâtiment qui mélange complètement les dimensions. Tu vois,
effectivement, il y avait un espace un peu compliqué. Il était plutôt années 50, je pense, comme architecture, enfin intérieur. Il y avait beaucoup de carrelage aussi, non, peut-être plutôt années 80, non, peut-être super studio un peu, beaucoup de carrelage.
C'est des pièces assez riches, c'est des pièces avec des lambris, des simèses, avec des hautes plaintes, avec des moulures, il y a du cuivre, il y a du laiton, il y a des parquets marquetés.
En tout cas, il y a des couloirs. Il y a des couloirs. Je marche dans des couloirs avec des couloirs assez bas, avec une lumière assez bas, je suis dans les sous-sols. C'est des couloirs qui sont plutôt vitrés, blancs.
Au départ, il y avait vraiment très peu de monde hein, dans ce musée. Je me balade dedans, tout est peint de blanc. Donc ce sont des cubes blancs en fait. Chaque pièce est un cube blanc. Et puis il y a un objet au milieu, donc c'est assez clair que ce qu'il y a à voir, c'est cet objet-là.
Il y a des gros fauteuils, des sortes de fauteuils un peu argentés ou rouges, avec des formes très arrondies. On peut s'asseoir, c'est un peu comme des bascules. on peut s'allonger.
Et puis je me dis, voilà, je suis dans un centre d'exposition avec des œuvres, mais c'est des œuvres dont j'ai pas envie de comprendre le sens spécialement. Je fais pas d'effort de compréhension.
Il y avait beaucoup d'objets, de sculptures en perspective, enfin des perspectives exagérées. Voilà, des objets avec des perspectives exagérées. Et je trouvais ça un peu nul. Enfin, je sais pas, j'avais pas très envie d'être au musée. C'était vraiment pas très intéressant, quoi. Je me promenais en disant que c'était pas très intéressant.
C'était juste à la Maison Rouge, en bas, au métro, là, en train. Du coup, Joris Lacoste a absolument voulu garder et qui dit que ça.
C'est strange. Et on m'annonce que c'est moi qui fais une expo dans ce musée. Que je suis en train de faire une expo, je suis même en train de visiter une exposition. L'exposition est en cours, c'est moi qui l'ai faite, et en même temps je la découvre. Et il y a cette première salle, mais que je vois beaucoup en contre-plongée, et c'est la salle où les murs sont faits avec des corps.
C'est une pièce où les gens sont dans les murs. Et donc, une pièce complète, avec 4 murs, pas de plafond, mais il y a des parois transparentes.
Et derrière ces murs de verre, il y a des gens qui sont nus et ils attendent. Ils sont vraiment comme des poissons. Ils sont vraiment comme des poissons dans un aquarium. C'est-à-dire qu'ils sont derrière la vitre, quoi.
Ils sont parfois peints. Ils sont toujours blancs, hein, quand même. Ils sont assez blancs, mais plus du genre poudré, comme les fausses statues, tu sais, des performeurs qu'il y a devant les musées ou dans les cathédrales touristiques en été.
Les gens observent, mais il n'y a pas non plus. Ça pourrait être obscène, mais ça l'est pas, parce que ça fait partie. C'est comme un élément de décor.
Il y a un système de flou. Tous les détails qui pourraient être qu'on pourrait considérer indécents, tout ça c'est flouté. On est gêné, pourtant c'est tellement faux, je veux dire que c'est tellement blanc, on dirait une photo de publicité, on dirait un truc en plastique, quoi. On dirait, c'est-à-dire ouais, c'est ça, ça serait des êtres humains qui sont déguisés, maquillés en statues de pierre en plastique. Voilà, on est dans. Il y a comme ça des couches de faux.
Ou le statue vivante, elles étaient là comme un vulgaire décor, quoi. Elles n'avaient aucune importance. C'était des gens qui faisaient assez mal leur rôle, quoi. Ils étaient juste là de manière très peu crédible. Comme un genre de décor de mauvais théâtre posé là-dessus, quoi. Un genre de.
Quand même un sentiment.
Bon, j'arrête là, je l'avance juste un petit peu plus loin parce que c'était le début de l'émission.
C'est assez. Mais je sais plus, il se passe quelque chose dans le lit, mais je me souviens plus.
Un homme et une femme faisaient peut-être l'amour dans la pièce. Mais c'était comme un souvenir. Quelque chose qui avait lieu dans cette pièce. Des gens sur lesquels on serait tombé, comme dans un hôtel en rentrant dans la mauvaise chambre.
J'ai senti des présences, ouais, des corps, etc. Mais je me suis pas non plus attardée là-dessus. Ça me plaisait pas. Non, la chambre, je crois que je me souviens à peu près que de ça. Je sais pas. Mais je sais qu'il y a un truc qui m'énerve. Un truc qui m'a énervée dans cette chambre.
Ah oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Comme si dans un coin de la pièce, il y avait une autre pièce qui était une sorte de chambre de bonne avec une petite table en bois.
Et il y avait ce mec qui était là et qui avait plus presque un air prétentieux, quoi, qui avait l'air de penser détenir des secrets importants et il avait les cheveux jusqu'aux épaules, lisses, des gants un peu mal rasé, avec le ton de quelqu'un qui parle très bien en choisissant chacun de ses mots et On sent toutes les liaisons. Mais...
Il était là, il avait besoin de rien, il était sur son lit de camp, avec ses livres, et il réfléchissait, il était en position de réflexion, il sentait qu'il était à l'arrêt en train de réfléchir.
Un peu voûté, maigre. Ouais, le genre discret qui aimerait être un peu. Qui espère que, je sais pas, sans doute, cette solitude va attirer quelqu'un d'autre du même type. Attendant, en tout cas, un peu ouais, replié sur lui-même.
Ah oui. Oui. Il est sur son lit de camp comme ça, et en fait, il a plusieurs objets, dont une montre. Une montre avec un assez gros cadran, avec un bracelet, enfin c'est une montre bracelet. Il remonte le temps comme ça, il essaye de réparer sa montre. Et je sais que c'est quelqu'un de très, très érudit, très sage, très élevé.
Le moine quoi, l'homme vraiment austère,
Bon. Il y a un autre extrait aussi où il raconte qu'il rentre dans une pièce du musée et qu'il y a un aquarium au milieu de la pièce. Dans cet aquarium, il y a une tête vivante qui est reliée avec des tuyaux à d'autres aquariums dans lesquels il y a des membres, des bras, des jambes, un tronc dans un autre bac. Et en fait, le personnage est complètement vivant. Il peut bouger ses bras d'aquarium en aquarium, ouvre les yeux, il est vivant, mais il est démembré dans différents aquariums et relié par des trucs cette pièce-là. En mesure qu'on visite ce musée et qu'on le découvre, on se rend compte que c'est complètement ça devient de plus en plus délirant. Hein. La fin, le musée brûle, tout se termine. Dans une espèce de... Les gens qui sont à poil derrière les murs transparents et dont le sexe se floute quand on se rapproche automatiquement. Ouais. Et donc la pièce avance comme ça, petit à petit. C'est que ce dispositif-là, succession de témoignages les plus basiques et les plus. Mais sauf qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'est-ce que c'est que ce
truc-là ? On sent dans le ton qu'on parle d'imaginaire, moi j'ai l'impression que c'est des gens qui racontent des rêves.
Ouais.
Il y a un truc dans leur manière de raconter.
Mais tu vois, ils racontent.
Le problème, c'est qu'ils racontent le même rêve.
Tous le même rêve. Le travail, c'est qu'effectivement, les intervenants ont tous été hypnotisés, en fait. Et que les témoignages qui sont enregistrés ensuite, c'est... en fait, c'est un rêve induit qui leur est soumis. Et quand ils reprennent leur connaissance, on leur demande de raconter le rêve qu'ils viennent de faire. Et donc, ça donne un côté hyper véridique au témoignage, avec toutes les hésitations de la parole, tous les... Mais en réalité, c'est une fiction où tout est écrit dès le départ et où chaque personnage s'est vu confier une partie du puzzle. On lui a donné ce qu'enfin on lui a fait rêver quelque chose. Et en fait, en racontant, il a raconté tout ce qu'il avait véritablement vécu, mais qu'il avait vécu de manière induite sous hypnose. Donc, c'est une fiction écrite sous hypnose complètement. Et c'est intéressant de jouer sur le témoignage tout en sachant que tout est écrit et que tout est fictionné. Quoi.
Comment elle s'appelle la pièce, le musée des...
Le musée du sommeil. C'est intéressant de... Alors après, la pièce, elle est assez straight hein, sur le plan formel, ouais. Parce qu'il n'y a que les bruits du métro coupés comme ça, à l'arrache, avec le montage des voix. Ne voulez absolument rien d'autre. Vous ne voulez justement pas créer cette espèce de musée d'un point de vue sonore, vous ne voulez pas du tout aller vers ça. Vous voulez qu'on ne se le crée que par le témoignage et par le...
Il n'y a pas de temps, c'est cette pièce du coup.
Elle dure très longtemps, elle dure 1h10 dans les cas. C'est assez long, ouais. Et puis ça se barre des trucs de plus en plus improbables. Quoi. Il écrit chaque pièce de ce musée, quoi. Voilà. On avait fait Edouard Levé, ça aussi. Il avait une maison en Creuse, une maison de famille. Et en fait, il rentre dans cette maison et uniquement par le son, il fait croire qu'il est dans un musée extraordinaire. Et c'est juste dans sa maison, la maison où il a grandi, une maison de famille. Et il écrit des pièces sonores, des choses qui. Il y a des choses assez étonnantes qui se passent avec un autre musée encore, Edouard Levé.
Pour,
pourquoi le dispositif, là, c'est, tu disais c'est la Maison Rouge, c'est quoi? Il y a eu l'hypnose qui s'est passée là-bas et il y a une petite cabine où ils enregistrent?
Ouais, non, c'est... tout s'est fait dans la salle en bas, en fait.
Ok. Donc ils sont hypnotisés à l'endroit où il y a un petit studio qui est, ouais, qui est installé pour pouvoir prendre, ouais, le son. Ouais.
Exact.
Et ils s'assoient à une table, et c'est pas une conversation. Ils sont... On les lance sur le sujet ou on leur dit juste raconter?
Ils sont mis en état d'hypnose. Là, on leur induit tous les éléments qui vont faire entrer dans leur cerveau. Et puis après, quand ils sont réveillés, on leur demande alors, qu'est-ce que tu as vu? Et donc, ils racontent ce qu'il a traversé. Hein. Donc ça donne au témoignage un aspect complètement véridique. Qu'aucun comédien, enfin, je ne sais pas si on a réussi à avoir un tel naturel avec un comédien. Donc jouer sur ça, tu vois, sur ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, sur...
Oui, et puis il y a aussi une réécriture des témoignages dans le monde.
Ouais. Effectivement, ouais. Après, je pense que le texte a été écrit et déjà découpé. Ça, il donnait les éléments petit bout par petit bout à tous les gens qui avaient témoigné.
C'est quoi comme hypnose? C'est pas du tout l'hypnose érectionnière.
Je ne sais pas du tout.
Parce que ça marche hyper bien, quoi.
Ça marche hyper bien, ouais. Bah, disons que la qualité du souvenir, avec tous les éléments, parce que parfois ils ont des sensations de toucher, ils ont des sensations de sensations très très prégnantes. Ça va vous faire écouter ça pour entrevoir la possibilité que les mécanismes peuvent être cassés par d'autres, et les mécanismes sont déjoués pour en recréer d'autres. Et c'est intéressant de penser comme ça aussi. Something else?
On pourra t'en demander.
Oui, bien sûr, oui. Sans souci, bah oui, vu que Lina est si comme ça.
Et puis que les podcasts, ça dure pas indéfiniment.
Je pense qu'il n'y a plus rien du coup de l'époque de la CR 2011 disponible.
Non, le podcast c'est fini. Non. Quoi? Il y a les pages web, ouais. Il n'y a que les pages web, ouais.
Non, mais même, il n'y a plus de pages, je suis sûr.
Ah bon?
La CR, peut-être, c'est la page qui existe au fond.
C'est pas vrai.
Ils ont fondu le site en plus de France, il n'y a pas longtemps.
J'ai perdu les archives textes aussi.
Ah bah, y a rien.
C'est pas possible.
Là, vérifie.
C'est complètement fou.
Je cherchais justement la référence.
Ça veut dire si je tape Atelier de création radiophonique. Sid Barrett, quand même.
J'ai cherché sur une date.
Là, il y a encore ça. Ouais. Je ne sais plus quelle date je cherchais, mais c'est peut-être plus ancien. Mais il n'y a plus de... Bon. Ah bah, s'il commence à les virer. Ça, c'est une mauvaise nouvelle, ça. Si même les pages commencent à disparaître, parce que moi, j'y suis tout le temps enfourré pour retrouver des choses ou pas. Et ouais. Bon, voilà, pour ce point de la radio, en tout cas, on a produit, donc je vous dis, 400 pièces en tout, avec des artistes de toute obédience. C'était pas, on ne garantissait pas d'avoir une réussite à chaque fois et d'un truc absolument génial, mais il y a eu des perles absolument folles qui ont vu le jour. Je pense notamment au travail que j'ai entrepris avec Floyd Crouchy, qui est une jeune compositrice bassiste, elle aussi, et qui a fait un documentaire radio complètement fou sur la communauté sacrée en Inde des Hijras, qui sont la communauté transsexuelle des comment ça s'appelle, la communauté transsexuelle sacrée, hein, ils sont, la communauté, les hijras sont considérés comme portant bonheur, comme ayant un... ils sont invités pour les mariages ou pour les baptêmes, ils font des chansons, et elle a fait un documentaire à partir d'un atelier d'écriture qu'elle a fait à Bangalore, en Inde, et je vais peut-être vous faire écouter le début de ça, pareil, faut je vous laisse la pièce. Là, c'est un vraiment travail de ciselage. Alors, on est dans du documentaire, mais par une compositrice. C'est-à-dire une compositrice qui se met à... Alors, elle est où ? Hijras. Allez. C'est elle qui fait tout, hein. tout, quoi.
Prendre un livre.
Oui, bah ça, c'est le...
Au hasard. Regarder dedans.
Ça aussi, ça, c'est peut-être un petit mot sur ça. C'est-à-dire que ça, c'était l'ouverture de l'antenne à la CR. On avait toujours une espèce de petite phrase un peu ouverte qui invitait à l'écoute. Donc là, on voit une, par exemple. Une petite phrase, il y en a un paquet. On a même fait une fois une émission avec toutes les petites phrases de toutes les émissions qui avaient été faites auparavant. Et donc, on ouvrait un bouquin, ça peut être un bouquin de poésie ou n'importe quoi, et on essayait d'en sortir la petite phrase, quoi. Alors, celle-là, c'est laquelle ?
Prendre un livre, au hasard, regarder dedans.
Ben voilà, c'est ce qu'on faisait. Donc, on avait le mode d'emploi de ce qu'on faisait pour généralement choisir les petites phrases. Bon, je vous mets sur le début de la pièce. Cette pièce a remporté le Grand Prix italien en catégorie documentaire.
Hijras d'Agris, journal transgenre d'une famille hijra, par Floyd Couchy.
Près des égouts et des poubelles et à vivre comme des ramasseurs de déchets.
De l'espace pour les filles, une autre occupée par les garçons. Si une coquille s'approche, elle n'est admise ni chez les filles, ni chez les garçons. On l'insulte et on lui pose un tas de questions. T'es quoi, toi ?
Qu'est-ce que t'as ? Un Alors, coquille pense.
Qui suis-je ? en Inde, dans la mythologie et les grands textes anciens, a toujours existé l'idée d'un troisième genre. Cette idée de troisième genre a donné naissance, à travers l'histoire, à diverses communautés, principalement des communautés d'hommes, dont la vie est dédiée aux différents cultes des déesses et de Krishna, et qui leur consacrent leur fertilité. Une hijra est un membre de la communauté transsexuelle sacrée de l'Inde.
Si dans un jardin il y a des fleurs rouges et une fleur blanche, si dans un jardin il y a des fleurs rouges et une fleur blanche,
se pique avec
les fleurs rouges n'accepte pas la fleur blanche. La fleur blanche se pique avec sa propre épine. Une réflexion sur le genre et les discriminations, questionnant aussi sa propre communauté. C'est à Bangalore, en Inde du Sud, un des pôles de cet activisme, que j'ai rencontré Famila, Anand, Kajol, Sneha, Sanjana et Revati, une famille hijra.
Bon voilà, c'est difficile de faire entendre un petit bout d'extrait parce qu'il faut entendre toute la pièce quoi, hein, et il faut rentrer dans la logique de la. Là, on entend 5 minutes et ça nous met juste un peu dans un bain. Mais C'est intéressant les compositeurs qui s'emparent de sujets de docu et qui en font quelque chose. On avait travaillé aussi avec Christopher Wedge, qui donne d'ailleurs ce soir l'adaptation en spectacle sur plateau de son atelier de création radiophonique à Creil. Et qui lui était parti en résidence d'artiste à Volodarka en Ukraine, au bord de la zone de Tchernobyl, et donc a réalisé à la fois une espèce de carnet de voyage, de documentaire et de création sonore à partir de tout ce qu'il a ramené. Et là, Floyd a fait la même chose avec ce sujet-là. Et ça marche toujours très très bien, je trouve. Vraiment composer des sons autour du réel comme ça, et elle arrive vraiment à créer on arrive à vraiment rentrer en empathie avec les gens, et je pense que le bain sonore dans lequel elle nous glisse est parfait pour ça, en tout cas nous y emmène tout doucement, on s'y retrouve comme ça, c'est fabuleux quoi.
C'est une pièce produite dans les studios de Radio France.
Ouais. Bon, alors après ce qu'il y a, c'est que pareil quoi, c'est un compositeur qui arrive. On casse un peu le fonctionnement traditionnel de la radio parce que elle travaille beaucoup chez elle à composer les choses, mais après on a joué le jeu quand même de toutes les parties qu'elle réimportait, de faire en sorte que la réalisatrice Marie-Laure Ciboulet avec elle qu'elle se retrouve pas sur la touche à ne rien faire quoi. Mais donc ils ont réussi en fait. L'idée c'est vraiment mettre en place à chaque fois une production qui va être adéquate pour la pièce qu'on cherche à produire quoi. Donc faire en sorte que et le producteur et le réalisateur tous les deux trouvent leur compte là-dedans.
Je me pose un peu la question sur la coloration des transformations sonores qui sont un peu récurrentes.
Alors elles sont récurrentes justement parce qu'elles jouent sur cette ambiguïté de l'appartenance sexuelle, et donc en dédoublant les voix et en les mettant dans chacune des deux enceintes, et même en faisant redire le texte par la même personne, souvent. C'est-à-dire qu'elle multiplie les deux fois le même texte, qu'elle les met dans les deux enceintes différentes, ce qui crée un léger flottement dans la synchronisation, et qui donne ce dédoublement, en fait. Et je pense qu'à travers ce système-là, elle questionne tout simplement le dédoublement de la personnalité, la question de l'identité aussi. Quand on est Hijra, quand on est devenu femme, est-ce qu'on l'est totalement, est-ce qu'on l'est encore? Bon, elle a beaucoup beaucoup passé de temps dans cette communauté, et elle a surtout travaillé avec eux sur ses ateliers d'écriture, parce que ils sont méprisés, ils vivent en dehors de des villes, ils doivent s'habiller avec les vêtements des morts, enfin voilà, ils ont pas de ils sont pires que les intouchables, les Hijras, quoi. Donc, en plus, ils sont violés par la police régulièrement. Enfin, c'est assez l'horreur, quoi. Donc, elle fait ce documentaire et qu'a renoué avec les prix en documentaire. Bon, voilà, quand on passe du temps et quand on arrive à faire quelque chose aussi comme ça, d'assez. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on continue à écouter de la radio on change d'univers?
Est-ce qu'il y a des gens qui étaient récalcitrants, des auteurs du coup, des gens invités qui étaient un peu récalcitrants avec le fonctionnement de la radio, dans le côté de travailler avec un réal,
ouais,
de la radio, des producteurs de...
Ça, bon, déjà, il faut savoir, c'est que les gens qui venaient travailler ne connaissaient absolument rien à la radio. Donc, quelque part, le réalisateur aussi, qui s'occupe à la fois de la prod, de réserver les studios, mais aussi de faire tout ce qui est l'attaché de prod, en fait, ils étaient bien contents de les avoir. Après, nous, on avait une équipe aussi assez malléable à l'atelier, où on pouvait, parce qu'on avait différentes configurations. T'as l'artiste qui débarque, qui sait exactement ce qu'il veut à la seconde près, et tout est prévu dans sa tête, il sait exactement qu'il veut ça, 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 là, comme ça. Et dans ces cas-là, le réalisateur se retrouve un peu comme un chef de gare à mettre les choses sous ses ordres, tout en étant force de proposition et en pouvant donner des idées, en disant voilà, on pourrait faire ça comme ça, tiens, ça pourrait mettre ça, on pourrait illustrer avec ça ou autre. Ou alors, tu as au contraire les artistes qui arrivent et qui ne savent pas du tout. Ils sont, eux, au contraire, dans la recherche, dans l'expérimentation. Et dans ces cas-là, le réalisateur n'a pas du tout le même rôle. Donc il fallait qu'on ait des gens suffisamment souples, ouverts, avec une culture musicale et sonore assez, assez vaste pour pouvoir répondre aux différents sujets sur lesquels on pouvait être amené à travailler. mais ça se passait plutôt bien. Et pour les artistes, vous voyez, des fois ça s'est mal passé, hein, c'est sûr, mais pas tout le temps.
Il y avait aussi des propositions qui venaient des réalisateurs maison.
Ouais, c'est arrivé, ouais. Lionel Quentin, Gilles Mardi-Rossian réalisaient des pièces au sein de l'atelier quand ils travaillaient. Bon, après, c'est toujours un peu compliqué parce que on se retrouve dans une espèce de jugé parti. Ils sont engagés par Radio France et s'ils se mettent à faire des pièces en tant que producteurs, ils piquent un peu le boulot de... Enfin, ils ont un peu double. Donc nous, on leur demandait, quand ils faisaient une pièce pour l'atelier, déjà de se mettre en vacances. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas travailler pour Radio France en même temps qu'ils venaient. Donc ils prenaient un temps de vacances. Et pendant ce temps de vacances, ils venaient travailler sur leur pièce à la radio. Et on se retrouvait dans une espèce... Non, mais on se retrouvait dans un parti pris. C'était problématique, parce que sinon, ils étaient payés pour faire de la radio et payés pour faire une émission. Enfin, ça pouvait pas être possible. Et puis ça reste...
Ce qui a été problématique... Enfin, mais c'était dans d'autres cas, pas des gens qui étaient réels, mais des gens qui, comme ça, avaient deux postes en même temps... Mais je pose cette question parce que aux fictions, c'est les réels. C'est aussi les réels qui peuvent proposer des pièces, ou c'est...
Ouais. Bon, les fictions, c'est très différent de l'actuelle création radiophonique. Parce que, bon, c'est culturellement, je pense, ça se passe comme ça, peut-être même historiquement. C'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs fiction. Nous, nos réalisateurs à l'atelier de création radiophonique, ils n'ont pas le droit de faire une fiction avec plus de deux comédiens en même temps. Ça, c'est la règle syndicale. S'il y a plus de deux comédiens en même temps, assis autour de la même table, on n'a pas le droit. Il nous faut un réalisateur fiction. Donc, bien souvent, on faisait, nous, des fictions à 30 personnes, mais on les enregistrait séparément. Donc... C'est une manière de contourner le truc, quoi. Ce qui n'est pas plus simple, d'ailleurs. C'est même parfois plus compliqué, mais en fiction, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, la fiction passe commande à un texte, à un auteur, qui va écrire ce texte pour la radio, mais l'auteur ne mettra jamais les pieds à la radio. Il livre son texte, et en fait, le texte est confié à un réalisateur fiction qui va le mettre en nom d'eux. Nous, à l'atelier, on était justement là pour sortir un peu des sentiers battus et un peu changer ça, et en faisant en sorte que... mais nous, on faisait souvent nos prises de son nous-mêmes, déjà. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Mais c'était l'exception même de l'atelier qui faisait que si on ne pouvait pas sortir des règles de la radio, c'était idiot de pas... Mais fallait qu'on fasse attention, quoi. On était assez vigilants avec le fait de pas emmener... de pas emmener la radio au bord du précipice, parce qu'on a quand même plusieurs fois failli déclencher des grèves, quoi, avec des conneries comme ça, quoi. Je me rappelle une fois, on travaille avec Christophe Honoré, on travaille avec un cinéaste, on fait venir un cinéaste. Lui, il travaillait avec Isabelle Huppert, il y avait je sais plus qui d'autre, etc. Bref, et il est en train de tourner sa scène. Un réalisateur fiction qui rentre, ils étaient quatre comédiens, et il y avait pas, c'était pas un réalisateur qui était en train de diriger les comédiens, c'était lui, en tant que réalisateur cinéma. C'est son boulot, quoi. Le gars, il est rentré dans une folie, il a commencé à débrancher toute la table de mixage derrière, en disant « Vous n'avez pas le droit, c'est interdit, plus de deux comédiens. » Et ça a créé un vrai souci, quoi. Donc il fallait à chaque fois montrer patte blanche, à chaque fois faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans l'illégalité syndicale corporatrice. La radio, est quelque part, il y a beaucoup de corporatisme à la radio.
Oui. Hyper rigide.
Hyper rigide.
Hyper rigide.
Ouais. Ah oui. Ouais.
La carte de 2 gigas.
C'est la carte de 2 gigas.
C'est la carte de 2 gigas.
Ouais.
On tue la nagra pour aller faire des prises de son. Et on te sort la carte de 2 gigas qui va être la carte. Tu peux pas dépasser.
Non. Bon, enfin, après, nous, on se démerdait toujours parce que nous, on avait des réalisateurs, enfin, Gilles Mardi-Rossian ou Lionel Quentin, qui ont beaucoup travaillé avec nous. Gilles était électroacousticien aussi, par ailleurs. Il était preneur de son. Bon, il aurait très bien pu être preneur de son pour Cousteau, quoi, genre une espèce de baroudeur aventurier qui a peur de rien et qui enregistre dans des conditions. Donc là, ce qu'on faisait, c'est qu'on partait même sans technicien, souvent, quoi. On part avec le réalisateur qui fait la prise de son. Bon, alors on choisit le technicien qui va mixer pour que ce soit pas quelqu'un qui coince à cause de ça. Mais c'est vrai que les métiers sont très très compartimentés. On peut pas... Pas comme ça.
Bonjour. Comme au cinéma, un peu.
Comme au cinéma, ouais.
C'est le principe des industries, quoi. Quand on est plasticien, par exemple, enfin, sous des cas extrêmes, il y a pas d'industrie, quoi. On fait, on va voir, on invente une manière de faire, alors que en cinéma, documentaire ou fiction, il y a et apparemment à la radio. Et pour avoir regardé un petit peu sur des projets, avoir envie de, d'envoyer des projets et tout ça, à Arte Radio par exemple, ou dans d'autres endroits, souvent on parle tout de suite dans les espèces d'appels à projets de c'est pas à vous de prendre le son, vous n'avez pas le droit de prendre des sons avant de, d'avoir. Alors que on se rend compte que par exemple sur une pièce comme Adèle et Adrien, j'ai pas, c'est pas forcément, c'est pas des conditions où je peux avoir un mec de Arte Radio avec moi en vacances.
C'est impossible.
J'ai pas envie. Puis il y a des mots, il y a des trucs d'intimité, il y a des, il y a des documentaires où on a envie d'être avec quelqu'un, et ça se passera, ça se dira et ça se fera que si on est tous les deux, parce que c'est la grand-mère.
Arte, tu peux le faire, tu peux faire des prises de son, mais après avoir eu la, le financement de production, mais après.
Avec leur matériel, je crois.
Ah ouais ?
Ouais, essentiellement.
Mais parce qu'il y a aussi le truc où, enfin, je sais pas, moi qui l'habitude de, d'essayer des choses, même au montage et tout ça, de se retrouver avec un, soit un réal, soit un monteur qui est derrière le poste et de ne pas pouvoir mettre les mains dans le cambouis autant que je voudrais. Enfin, moi, c'est une question que je me suis toujours posée justement mais avec des potes qui ont bossé avec Arte Radio ou des gens qui ont bossé à France Q, de savoir comment on arrive un peu à se séparer de l'outil où on. Enfin, comme un compositeur qui ne pourrait pas s'essayer au piano avant d'écrire une ligne et qui serait obligé de se la projeter mentalement pour.
Ouais. Bon, mais nous, on était un peu en dehors de tout ça, parce que justement, on avait une équipe, on était en vase clos, et que du coup, ça nous permettait d'être un peu autonome quoi, par rapport à ça.
Pour Arte Radio, enfin, pour avoir entendu plusieurs fois Sylvain Givre le dire, c'est, il y a la question de la signature. Il y a une signature Arte Radio.
Oui. C'est toujours mixé d'art.
Oui, mais ça, c'est pareil. Ça a une limite, ce raisonnement-là. Parce que quelqu'un qui travaille sur le Lofi, qu'est-ce qu'il en a à faire de l'identité sonore de d'Arte Radio ? Dans ces cas-là, il ne viendra jamais travailler Arte Radio. C'est un peu dommage de se fermer des pans entiers de l'expression sonore, et, tu vois, parce qu'on a un son. Moi, nous, on partait d'un principe simple, c'est qu'un électroacousticien, il fabrique ses sons. Enfin, il fait ses prises de son. T'imagines ? Imagine, je sais pas, Yann Parent-Ohen et quelqu'un qui va lui tenir. De toute façon, voilà, c'était l'exception même, Yann Parent-Ohen, puisqu'au sein de la radio, il était à la fois technicien et producteur. Et lui, il avait sa cabine de mixage, de prise de son, il faisait tout. Bon, c'est l'exception qui confirmait toute la rigidité de la maison dans la liberté que lui seul pouvait avoir. Ce qui est quand même délirant. Mais on a quand même eu les coulées franches, quoi. Et bon, puis on savait ce qu'il fallait pas faire aussi. Enfin, ce qu'il fallait pas. On savait ce qu'il ne fallait pas que ça se sache. Voilà, c'est ça. Donc on se brouille toujours, quoi. Mais après, c'est une maison très très complexe, ouais, c'est sûr.
Après, ça, je trouve que ça a l'air d'apporter plein de choses bien aussi, le côté industriel d'une production. Quand tu parles de monteur, par exemple, extérieur, tous les gens qui font du cinéma ou presque ont un monteur ou une monteuse, et c'est des moments où ils disent c'est des moments clés,
ouais.
Et où tu choisis quelqu'un qui a un regard sur ton film et qui t'accompagne. Et il y a aussi ce truc qui est hyper beau de que j'ai l'impression que nous on connaît moins dans nos boulots parce qu'on nous demande de tout savoir faire et tout ça, et en fait où quand même tu es tous au service d'un projet. Alors forcément souvent c'est le réalisateur qui tire la gloire et machin, mais en fait le réalisateur souvent il a son équipe, il en change pas beaucoup, il a son monteur, son chef-op, son truc. Et finalement, en fait, tout seul, il fait pas son truc. Et j'aime bien, moi, cette idée d'équipe au service d'un projet qui a l'air d'être très très présente en radio, quoi. Et c'est.
Et puis là, toi, tu disais que tu avais la contrainte temporelle qu'il peut y avoir ailleurs où faut. Là où, si on faisait une fiction dans son coin, ou un docu dans son coin, on y passerait 6 mois.
Oui.
Et dans la temporalité de France Q, c'est à faire en 2 semaines. Et c'est vrai que ça amène à ça, à faire avancer les choses vite.
Oui. Bah, c'est fait pour, c'est une machine à produire, de toute façon. Donc il faut produire vite et le moins cher possible. Mais nous, on était un peu en dehors de ces questions-là, parce qu'on était le lieu de l'expérience, le lieu où on prend le temps de faire, le lieu où on prend le temps d'écouter aussi. On nous a relativement foutu la paix quand même pendant 10 ans, quoi. C'était assez génial, quoi.